Chers amis des cellules, bonjour. Nous laissons aujourd'hui de côté le père Adrien Condiard et son commentaire de l'Épître à Timothée pour nous pencher sur le rite d'installation d'un curé. Nous allons vivre le 13 octobre prochain mon installation et je souhaiterais que vous puissiez dès à présent connaître d'un peu plus près ce rite d'installation et sa signification. Nous tâcherons de mettre en évidence les trois charges spécifiques des pasteurs du peuple de Dieu. La première intervention a lieu tout au début de la messe, après l'ouverture de la célébration. L'évêque interroge ainsi le curé. « Acceptez-vous la charge de curé de Notre-Dame du Travail ?»« Oui, je l'accepte. » Voilà que le rituel commence par la demande de l'expression d'un engagement à la fois libre et public. Le curé s'engage librement dans cette charge, il doit exprimer son engagement et il le fait publiquement. Ce qui signifie qu'on pourra tenir son témoignage contre lui, éventuellement, s'il n'y est pas fidèle. Il avait accepté librement cette charge, et tout le peuple est témoin de son engagement. Mais en même temps, cet engagement public manifeste qu'il a reçu de l'évêque cette autorité sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas une autorité qu'il se serait appropriée personnellement, ce n'est pas une autorité qu'il aurait usurpée, qu'il aurait saisie par son propre goût, c'est une charge qu'il reçoit de l'évêque. De la même façon que Jésus se présente comme l'envoyé du Père, eh bien, le curé est l'envoyé de l'évêque. Il a reçu cette mission, il a reçu cette autorité. Il va exercer une autorité parce qu'il l'a reçue. Cette charge que le prêtre reçoit, il la reçoit aussi dans un esprit d'amour pour ceux qui lui sont confiés. Et c'est peut-être là où l'on comprend mieux le nom de curé. Qu'est-ce que ça signifie curé? Vous avez peut-être déjà suivi une cure thermale. La cure, ça signifie prendre soin. Le curé, c'est celui qui doit prendre soin des brebis du troupeau du Christ. Sa mission, c'est de prendre soin, de les aider à vivre, de les aider à se nourrir de Dieu, à se nourrir de la vie de Dieu, d'être bien portante, de gagner en liberté des enfants de Dieu. Voilà la charge du curé, telle qu'elle lui est présentée, transmise et acceptée. Le deuxième temps du rituel de l'installation se produit après l'Alléluia, avant la proclamation de l'Évangile. Le curé s'approche de l'évêque et lui dit « Père, veuillez me bénir ». L'évêque appelle le curé par son nom et lui dit « En vous nommant curé de cette paroisse, l'archevêque vous donne part à la mission d'enseigner que le Seigneur lui a confiée pour le diocèse de Paris comme successeur des apôtres. C'est pourquoi vous annoncerez à tous l'évangile de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Fidèlement, vous donnerez la nourriture de la parole de Dieu au peuple chrétien, par la prédication, la catéchèse et toutes les autres formes de réflexion spirituelle et d'approfondissement doctrinal. Vous annoncerez l'évangile, la bonne nouvelle du salut à ceux qui l'ignorent. Vous exercerez cette mission avec les prêtres et les diacres. Vous encouragerez tous les fidèles à être témoins de l'amour de Dieu selon la grâce de leur baptême. Que Dieu bénisse votre ministère et qu'il soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous proclamiez la bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La première chose à noter dans ce passage, c'est que le curé reçoit une part de la mission qui est confiée par le Christ à l'évêque. Cela signifie que le curé travaille en lien avec l'évêque, en dépendance avec l'évêque. Il n'a pas reçu une mission d'enseigner qui serait distincte de celle de l'évêque, séparée de celle de l'évêque. Il y a une fidélité, il y a une communion que le curé doit tenir avec l'évêque qu'il envoie. ce n'est pas sa propre mission, il prend part à la mission d'enseigner que le Seigneur a donnée à l'évêque. On se souviendra par là justement de ce rôle particulier des apôtres et donc des évêques qui sont les successeurs des apôtres. C'est eux, les évêques, qui ont reçu la plénitude du sacrement de l'ordre qui rend présent au milieu de nous aujourd'hui le Christ pasteur, le Christ qui conduit son troupeau. Le prêtre, le curé et collaborateur de l'évêque. On notera aussi que le curé annonce à tous l'évangile de Jésus-Christ, annonce à tous. C'est-à-dire qu'on retrouve là une chose que disait saint Paul, « Je me suis fait tout à tous pour annoncer l'évangile ». Le curé va s'adapter pour annoncer la bonne nouvelle à tout le peuple, il va s'adapter aux uns et aux autres. Il s'adapte, il adapte son langage, il adapte sa pédagogie pour annoncer l'unique Christ. C'est là où il ne faut pas se tromper. Si on adapte sa pédagogie, on ne transforme pas le Christ pour en donner seulement une partie aux uns et seulement une partie aux autres. C'est tout le Christ qu'il s'agit de transmettre aux uns et aux autres, mais en adaptant nos façons de faire, notre façon de dire et de parler, pour que tous puissent recevoir l'unique Christ et la plénitude du Christ. Vous remarquez aussi que l'on insiste sur la personne de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui sera annoncé. Parce que Jésus est la porte qui nous mène au ciel. Il est la porte qui nous mène au Père. Nul ne va au Père sans passer par lui. Il est la clé de la révélation. Et c'est cette clé de la révélation que nous donnons au peuple de Dieu. C'est cette rencontre personnelle avec Jésus que le curé est appelé à nous faire goûter, à nous faire vivre. Vous voyez ensuite que le curé donne la nourriture de la parole de Dieu par la prédication, la catéchèse, mais aussi toute forme de réflexion spirituelle et d'approfondissement doctrinal. C'est-à-dire que l'annonce de l'évangile ne se cantonne pas à une simple récitation des évangiles, mais aussi à leurs commentaires, à expliquer comment cet évangile doit transformer notre vie, peut transformer notre vie, et cela pas simplement en l'écoutant, mais en le commentant, en répondant aux questions, en faisant le parallèle entre ce qui nous est dit de l'histoire de Jésus, du peuple d'Israël, et notre histoire aujourd'hui, puisque c'est toujours le Christ vivant, le même Christ qui s'est adressé aux apôtres sur la terre d'Israël, qui s'adresse à nous aujourd'hui pour nous conduire au Père. Le curé, par son enseignement, doit permettre ce lien, cette rencontre de la parole de Dieu qui nourrit et qui transforme. Vous noterez aussi que l'on dit qu'il doit annoncer la bonne nouvelle du salut à ceux qui l'ignorent. Cela signifie qu'il a responsabilité pas simplement des chrétiens, pas simplement de ceux qui croient en Dieu, mais même de ceux qui ne croient pas en Dieu sur le territoire de sa paroisse, même à ceux qui seraient d'une autre religion, même à ceux qui seraient contre la religion ou contre toute idée de Dieu. Le curé a la charge de tous ceux qui se trouvent, de tous ceux qui passent sur son territoire. La bonne nouvelle du salut est appelée à être annoncée à temps et à contre-temps, comme le dit saint Paul, à tout homme. Sa mission, le curé l'exerce en lien avec des prêtres et des diacres, les autres collaborateurs de l'évêque. C'est une mission que l'on reçoit, et c'est une mission que l'on partage, que l'on articule avec d'autres pour le bien du peuple de Dieu. Vous remarquerez que cette mission a pour but de faire de tous les fidèles des témoins de l'amour de Dieu selon la grâce de leur baptême. Des témoins de l'amour de Dieu selon la grâce de leur baptême. La mission du curé, finalement, est de faire en sorte que tout le peuple de Dieu devienne missionnaire, que tout le peuple de Dieu prenne sa véritable stature de témoin de Jésus-Christ vivant et agissant aujourd'hui, de Jésus-Christ Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Il est là pour aider les fidèles à découvrir et à mettre en œuvre la grâce de leur baptême. Vous remarquerez enfin que cela se passe par une bénédiction. Je voudrais insister sur ce point. La mission du curé n'est pas simplement une matière d'organisation. Voilà, on répartit les tâches parce que c'est plus simple si chacun a un bout de la charge. Il y a une intervention de Dieu, il y a une bénédiction de Dieu qui rend capable à partir de la grâce de l'ordination, à partir de la bénédiction de l'envoi en mission, voilà que nous recevons de Dieu le don qui nous permet d'avoir l'audace de parler au nom de Dieu, qui nous permet d'avoir l'audace et la grâce de rendre présent sa parole. Et vous savez que c'est manifesté dans la liturgie, lorsque le prêtre termine l'évangile, il dit « Acclamons la parole de Dieu » et le peuple répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Il ne va pas dire « Louange à toi, Père Gabriel Wurtz ». Il reconnaît dans ce qui a été proclamé la parole même de Jésus. Cela ne peut se faire que par la grâce, que par la bénédiction de Dieu, que par le sacrement reçu de l'ordination. Nous arrivons au troisième temps du rituel de l'installation. Celui-ci a lieu après l'homélie et avant le credo, avant la proclamation de la foi. L'évêque dit ceci. Maintenant, je vous invite, selon la tradition de l'Église, devant moi et devant la paroisse que vous confie l'archevêque, à proclamer la foi catholique. L'Église l'a reçue des apôtres et la transmet fidèlement de génération en génération. Vous en serez le témoin et le garant auprès des fidèles dont vous devenez aujourd'hui le pasteur. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Le curé répond « Je crois » et invite ensuite les fidèles à répondre. Et vous, mes frères, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? L'assemblée répond « Je crois ». L'évêque interroge le curé « Croyez-vous en Jésus-Christ ?» Et le curé, après avoir répondu « Je crois », invitera aussi ses frères de l'assemblée à répondre. Troisième fois, l'évêque interroge le curé « Croyez-vous en l'Esprit-Saint ?» Le curé répond « Je crois », invite ses frères à répondre eux aussi. Et l'assemblée répond « Je crois ». Voilà le texte de la troisième partie du rituel de l'installation. Un premier point que l'on peut retenir est que le pasteur doit proclamer la foi catholique, il doit demeurer dans la foi catholique. Sa charge est liée à sa proclamation de la foi catholique. Il n'a pas cette charge pour faire autre chose que de proclamer la foi catholique. Comprenons bien ce que cela signifie. La foi catholique, c'est la foi reçue des apôtres. C'est ce que le Christ a remis aux apôtres pour qu'ils soient témoins de sa vie, pour qu'ils donnent véritablement la vie en son nom à ceux qui accueillent la bonne nouvelle. Nous entrons dans une histoire, l'histoire de l'Église. Nous entrons dans une tradition. Tradition, ça veut dire transmettre ce que nous avons reçu des apôtres qui eux-mêmes l'ont reçu du Christ. Et nous le transmettons à notre tour. Notons au passage que dans les familles, les parents participent à cet effort de tradition, de transmission en élevant leurs enfants dans la foi. Le curé sera témoin et garant auprès des fidèles, témoin de la foi de l'Église et garant par sa fidélité à l'enseignement de l'Église. Car la parole de Dieu, l'Église ne cesse de la scruter et de la commenter. Le dépôt de la foi, le dépôt de la révélation est clos avec la mort du dernier apôtre, mais nous ne cessons plus depuis de déployer, de développer, d'expliquer ce qui nous a été donné. Tout nous a été donné par le Christ, mais ce que le Christ nous a donné peut de siècle en siècle être explicité, exposé, je dirais, à nouveau pour les générations qui viennent avec leurs spécificités, afin qu'elles puissent entendre, recevoir, accueillir et mettre en pratique ce que le Christ nous donne. Je note enfin la dynamique dialogale de ce moment. Le curé est interrogé et le curé interroge. Le curé proclame la foi et invite l'assemblée à proclamer la foi. comprenons au passage que c'est une chance. À chaque fois que nous proclamons notre foi, que nous sommes appelés à expliciter notre foi, nous avons l'opportunité de grandir en elle, j'allais dire poussée, éclairée par l'Esprit Saint. Une proclamation de la foi, c'est une appropriation supplémentaire de ce que le Seigneur a révélé et que nous avons reçu. Quatrième moment du rituel, à la fin de l'offertoire, au moment de la présentation des dons qui ont été apportés, c'est-à-dire le pain et le vin. L'évêque dit au curé, « Dieu notre Père, par cette Eucharistie, nous unit au Seigneur Jésus-Christ pour nous donner sa vie et faire de nous des saints. Au nom du Christ et avec les prêtres de cette paroisse, vous accomplirez une mission de sanctification. Vous exercerez cette charge sacerdotale en offrant le sacrifice du Christ et en célébrant les sacrements qui initient à l'Eucharistie ou en renouvellent les bienfaits. En signe de cette mission qui vous est confiée par votre archevêque, venez prendre place à l'autel du Christ. » Voilà que l'on met en évidence le deuxième aspect de la charge que l'évêque transmet au curé, la charge de sanctification. Sanctification, c'est faire saint, faire rendre digne de Dieu. Et rendre digne de Dieu, ce n'est pas une chose que je fabrique par ma propre force. La sainteté, c'est une chose que Dieu nous communique. Nous participons à cette communication de la sainteté de Dieu, tout particulièrement dans les sacrements. Dans les sacrements, Dieu nous partage sa propre vie. Ce n'est pas simplement un encouragement, une direction. Dieu nous fait part de quelque chose de sa vie qui vient rejoindre notre propre vie pour l'élever, pour la consacrer, pour la rendre capable de participer à la vie divine. La mission de sanctification a pour but de nous unir véritablement au Christ Jésus, pour que nous soyons véritablement des fils du Père, vivants de la vie même de Dieu. Et cela est manifesté par ce geste très beau et tout simple du curé qui monte à l'autel aux côtés de l'évêque, qui monte aux côtés de l'évêque pour le sacrifice du Christ, pour offrir le peuple. Il offre Jésus. Le prêtre s'offre lui-même, et le peuple offre au Père le peuple tout entier. Le curé s'adresse alors à l'assemblée pour lui dire « Frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » Et l'assemblée répond « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » Dernier moment du rituel, avant le baiser de paix. L'évêque dit ceci. Frères, l'Église est le sacrement de notre union avec Dieu et de l'unité entre tous les hommes. L'autorité a été donnée à ses pasteurs comme une mission de rassemblement dans la charité et un service de communion dans la paix. En recevant la paix de votre nouveau curé, reconnaissez la mission et l'autorité qui lui sont confiées. Et vous, il s'adresse au curé, accomplissez cette mission dans un esprit de service et d'amour. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. L'assemblée répond « Et avec votre esprit ». Le curé alors s'adresse aux fidèles « Frères dans la charité, donnez-vous un signe de la paix du Christ ». Et le curé parcourt l'assemblée pour transmettre la paix. Il y a donc dans ce cinquième temps du rituel un appel de l'évêque à ce que l'assemblée reconnaisse l'autorité qui a été confiée au curé. C'est la troisième charge, la charge de gouvernement, après celle de l'enseignement et de la sanctification. Il a reçu une autorité pour pouvoir exercer cette mission. Mais cette autorité a pour objet une mission de rassemblement dans la charité et un service de communion. Ce rassemblement, pour être exercé, ce service de la communion, pour être exercé, a besoin de cet outil de l'autorité. Ce n'est pas une autorité abusive, c'est une autorité de service. Ce n'est pas une autorité d'une espèce de dignité qui serait supérieure. Le curé serait le cato de première classe et l'assemblée des deuxième classe. Ce n'est pas cela. Cela se vit dans l'esprit du Christ qui lave les pieds de ses disciples. Il leur dit « Je suis le Seigneur et pourtant je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». C'est avec cette même humilité que le curé use de son autorité pour le bien du peuple de Dieu, pour un exercice de la charité et le service de la communion. Ce n'est pas une autorité de domination, c'est une autorité pour le service et pour la communion. Au terme de cet enseignement, retenons peut-être les choses suivantes. Premièrement, le curé reçoit une charge de gouvernement, une charge d'enseignement et une charge de sanctification du peuple de Dieu. Deuxièmement, la mission qu'il a reçue est en lien avec l'évêque successeur des apôtres. Il a part à sa mission. Troisièmement, cette mission est au service du peuple de Dieu. Il prend soin du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu lui-même soit témoin du Christ et rayonnant du Christ. Bons échanges à vous.